très honoré, très intimidé en même temps d'être parmi vous ce soir. La dernière fois que je suis venue dans cette salle, c'était pour écouter André Vaucher, donc c'est vous dire que je me sens tout à fait indigne d'être ici. Mais je suis très honorée et très heureuse d'être là parce que ce lieu est devenu pour moi au fil des mois, au fil des années, un lieu de non seulement de recherche et de vie intellectuelle, mais aussi un lieu d'amitié, de vie fraternelle. Voilà, peut-être que je ne serais pas venue à bout de ma thèse sur Bonaventure sans mes allées et venues ici à la bibliothèque. Donc, je suis très heureuse d'être là. Et que cette modeste conférence soit pour vous comme un gage de reconnaissance et d'amitié de ma part. J'ai donc intitulé cette conférence « Autour de la théologie symbolique de Bonaventure ». Ce titre, comme le frère Luc Mathieu vient de le rappeler, est directement lié à un autre, celui d'un petit livre qui a été publié en septembre 2010 chez Paroles et Silences, dans la même collection que le François d'Assise de François Delmas Goyon, que je salue. Et mon livre est en quelque sorte un petit frère de celui de François sur François. Donc je suis ici pour vous parler de ce petit livre et de ce qu'il contient, mais également du contexte dans lequel il m'a été donné de rédiger ce livre. Et ce contexte, c'est celui d'une thèse de philosophie médiévale sur Bonaventure que j'ai soutenue le 2 février dernier à l'Université de Tours. Et je commence à en préparer la publication actuellement. Donc le but que je me fixe ce soir n'est pas de raconter ma vie, qui n'a rien de remarquable, mais de vous parler de Bonaventure, de ce qu'il est pour moi, parce que Bonaventure, à mes yeux de philosophe, est un franciscain et un théologien remarquable qui a beaucoup à nous apprendre, qui m'a beaucoup appris en tout cas. Je vais donc procéder de la façon suivante. D'abord, je vais vous parler de ce qu'il y a autour de la théologie symbolique, c'est-à-dire, je vais vous parler un petit peu de ma thèse, de la façon dont j'en suis venue à travailler sur Bonaventure, et puis c'est seulement dans un second temps que je parlerai du livre lui-même. Voilà. Alors, j'ai rencontré Bonaventure un peu par hasard, alors que j'errais dans les grands couloirs de la bibliothèque de l'École normale supérieure. Ce sont vraiment de très grands couloirs où on peut rencontrer tout un tas d'auteurs. Bon. À l'époque, je rédigeais un mémoire de maîtrise sur Nietzsche, donc j'étais à milieu de Bonaventure, comme vous pouvez l'imaginer. Je n'avais jamais suivi de cours de philosophie médiévale. J'avais arrêté le latin en troisième, donc j'étais dans les plus mauvaises dispositions qui soient pour travailler sur Bonaventure. Je n'avais jamais non plus suivi de cours de théologie, mais je commençais à m'intéresser à la question de la philosophie chrétienne sous une formulation assez radicale et précise. Le Christ peut-il être le maître en philosophie sans abolir la philosophie? Ou encore, à quoi sert-il de continuer à philosopher quand on a rencontré le Christ? C'était un petit peu comme ça que la question se posait pour moi à l'époque. Cette question me taraudait et je me suis instinctivement tournée vers les penseurs médiévaux afin de percevoir par moi-même comment la présence du Christ intervenait ou pas dans le travail de la raison. Je me disais que c'était certainement chez les penseurs médiévaux que je pouvais avoir quelques réponses à cette question. Et c'est ainsi que j'ai lu un petit peu, hein, vraiment un tout petit peu, Thomas d'Aquin, quelques sermons de Maître Eckhart, un petit peu Guillaume d'Occam, voilà, de façon tout à fait sporadique, et à dose très homéopathique, parce que je ne comprenais pas grand-chose, hein, je n'avais pas les outils nécessaires pour comprendre. Et puis un jour, je suis tombée sur ce livre extraordinaire, le plus difficile sans doute qui est écrit Bonaventure, à savoir les conférences sur les six jours de la création. Ce sont ses dernières conférences, sa dernière série de conférences, et c'est là que sa pensée est la plus aboutie, en fait. À mon avis, c'est vraiment le livre le plus difficile. Donc j'ai commencé à le lire dans la traduction de Marco Zilou au CERF. Marco Zilou que je salue aussi parce que sans lui je n'aurais jamais pu travailler sur Bonaventure étant donné que je n'étais pas latiniste. Donc s'il ne s'était pas donné la peine de traduire Bonaventure, de faire ce travail assez rébarbatif de la traduction, mais je ne serais pas du tout devant vous aujourd'hui. Donc je n'ai évidemment pas compris grand-chose en ouvrant ce livre des conférences sur les six jours de la création, mais j'ai compris deux choses très importantes pour moi. C'est que ce livre parlait de tout. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une sorte d'encyclopédie du savoir médiéval. Une encyclopédie, c'est de la sagesse chrétienne. Mais des questions aussi bien de mathématiques que de physique, de théologie trinitaire, les questions de tout. Donc ce livre parlait de tout, et en même temps, le Christ occupait le centre de ce tout. Il n'y avait pas de séparation entre théologie et philosophie, entre le Christ et la raison, entre la foi et la raison, tout. Ce livre forme un tout. C'est ce qui m'a marqué sur le moment. Quelques temps plus tard, je regardais les nouveautés à la librairie Vrin, parce que c'est le passe-temps des étudiants de philosophie à la Sorbonne. Quand on sort des cours, on va chez Vrin et on regarde ce qui se passe. Et puis, j'ai aperçu sur une colonne, au milieu d'une foule de petits livres identiques, dans la petite collection de la bibliothèque des textes philosophiques, un titre qui m'a accroché, c'était « Le Christ maître ». Et puis, je regarde... L'auteur, c'était Saint Bonaventure. Je me suis dit, oh, encore Saint Bonaventure. Et donc là, c'était la traduction de Gulf von Madec. Et j'ai acheté ce livre, me disant qu'encore une fois, j'allais peut-être trouver quelques réponses à mes questions. Là non plus, je n'ai pas bien compris, parce que c'est quelque chose d'extrêmement dense, hein, avec une structure très assez complexe. Mais il était question d'un magistère du Christ en matière de connaissance rationnelle. Pas seulement, mais notamment en matière de connaissance rationnelle. Et pas seulement sous l'aspect du maître intérieur comme chez saint Augustin. Il y avait quelque chose de nouveau. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire mon mémoire de DEA sur Bonaventure. Puis une thèse. Donc j'ai commencé à étudier la pensée de Bonaventure à cause du Christ. Et non par amour pour le Moyen-Âge, parce que je connaissais très mal le Moyen-Âge, ni à cause de François d'Assise, même si j'avais évidemment de la sympathie pour François, étant donné que j'ai un grand-oncle franciscain, je pense à le dire cette fois. Mais c'est vraiment à cause du Christ que je suis venue vers Bonaventure. Et c'est Bonaventure ensuite qui m'a conduite à François. J'ai été attirée par l'amour que Bonaventure avait pour le Christ. Et on le voit dans le titre de mon mémoire de DEA, puisque mon mémoire portait sur une question christologique. En tout cas, Rodimbar a eu la générosité d'accepter ce sujet, ce qui n'avait rien d'évident. Le sujet était la science humaine du Christ, c'est-à-dire la science du Christ non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, ce qu'il pouvait connaître en tant qu'homme. Donc j'avais choisi de travailler sur ce thème qui est assez complexe en réalité quand on ne connaît pas la théologie comme moi. Et donc avec le recul, je me dis que j'étais un petit peu trop ambitieuse parce que c'était difficile, mais en même temps c'était très formateur pour moi. C'est vraiment comme ça que je suis entrée dans la pensée de Bonaventure. Une fois ce travail achevé, donc sous la direction de Rudimbar à Paris 4, j'ai commencé à élaborer un projet de thèse, donc c'était en 2005. Je souhaitais effectuer une recherche approfondie sur la science divine cette fois. J'avais travaillé sur la science humaine du Christ et là je voulais explorer l'autre versant, celui de la science divine. Et plus particulièrement, je voulais travailler sur la théorie des idées, c'est-à-dire sur la façon dont Dieu connaît le monde et dont le monde est en quelque sorte présent en Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Je me suis donc attelée à cette nouvelle tâche avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je commençais vraiment à beaucoup apprécier Bonaventure, je commençais à comprendre le latin, donc c'était enthousiasmant pour moi de commencer cette thèse. Et cette fois, j'ai commencé à travailler sous la direction du professeur Joël Biard de l'Université de Tours et qui est spécialiste de Guillaume d'Occam. Les différentes recherches que j'ai menées m'ont permis de mettre au jour, peu à peu, ce que j'appelle la logique de la ressemblance chez Bonaventure, qui ne concerne pas seulement la théorie des idées, d'ailleurs, au départ je pensais travailler simplement sur la théorie des idées, mais la logique de la ressemblance, en fait, elle est à l'œuvre dans toute la pensée de Bonaventure, dans son anthropologie, dans sa théorie de la connaissance sensible, dans sa théologie trinitaire, dans sa cosmologie, etc. J'y reviendrai un petit peu après. Alors, il est toujours difficile de résumer une thèse, mais je vais essayer de définir un petit peu les trois objectifs que je visais à travers cette thèse. Donc, ils étaient les suivants. Mon premier objectif, c'était de lire Bonaventure pour lui-même, sans le soumettre à des catégories toutes faites. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours eu une affection particulière pour votre livre, Frère Luc, parce que il me semblait que quelqu'un lisait Bonaventure pour lui-même, non pas pour le comparer avec Thomas d'Aquin ou pour parler d'autre chose, mais vraiment, Bonaventure était lu pour lui-même. Donc je voulais, moi aussi, lire Bonaventure pour lui-même, estimant qu'il méritait d'être lu pour lui-même. Donc sans le soumettre à des catégories toutes faites, comme l'anti-aristotélisme, parce que très souvent on dit Bonaventure est anti-aristotélicien, il est augustinien, il est ceci, il est cela. Je voulais également éviter de le comparer sans cesse à Thomas d'Aquin, et selon des critères thomasiens, parce que je pense que ce n'est pas la meilleure façon de lire Bonaventure que de le soumettre à des catégories qui ne sont pas les siennes. Et enfin, je voulais le lire sans recourir immédiatement aux interprétations de mes illustres prédécesseurs. Je pense par exemple à Étienne Gilson, avec la logique de l'analogie. Je pense également à Hans-Urs von Balthasar, avec l'idée de monadologie, qui a été très développée par les commentateurs français de Bonaventure. Par exemple, Alain de Libera, Marc Ozilo, Emmanuel Falk. L'idée qu'il y a chez Bonaventure quelque chose qu'on pourrait appeler une monadologie, c'est-à-dire une sorte d'interaction entre Dieu et le monde. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait rébarbatif de développer ça maintenant, mais je voulais éviter d'entrer immédiatement dans ces hypothèses de lecture pour essayer de développer une lecture que je voulais vraiment proche du texte même de Bonaventure. Donc ça, c'était mon premier objectif, très simple, très modeste. Mon deuxième objectif, c'était de creuser une intuition initiale que j'avais eue, selon laquelle il y a à l'œuvre, dans la pensée de Bonaventure, une logique particulière, donc que j'appelle la logique de la ressemblance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ressemblance? Une ressemblance, pour Bonaventure, c'est une entité en relation de dépendance radicale à l'égard de son origine. Par exemple, le fils est dans une relation radicale, de dépendance radicale, pardon, à l'égard du père. L'espèce sensible est dans une relation de dépendance radicale à l'égard de l'objet qu'il a produit. Les créatures dépendent radicalement de Dieu, etc. Donc les créatures sont la ressemblance de Dieu, le fils est la ressemblance du père, etc. La deuxième propriété de la ressemblance, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle exprime son origine. Manifeste son origine. Par exemple, le fils exprime le père. L'espèce sensible exprime l'objet qu'il a produit. La créature exprime et manifeste la vie trinitaire, quelle que soit cette créature. La troisième propriété de la ressemblance, c'est qu'elle reconduit ou ramène à son origine, qui est aussi sa fin. Et c'est ce que Bonaventure appelle la réduction, la reconduction. Autrement dit, la ressemblance, c'est une entité mineure pour Bonaventure, c'est-à-dire une entité qui est en situation de minorité à l'égard de son origine, qu'elle exprime et vers laquelle elle retourne. Donc c'est ce que j'appelle la logique de la ressemblance qui repose sur ces trois propriétés-là. On voit que c'est une logique dynamique, hein, puisqu'on part de l'origine, on exprime son origine et on retourne à son origine. Donc la ressemblance est une entité mineure, seconde, et il me semblait remarquable que l'auteur d'une telle logique de la minorité soit justement un frère mineur. Moi, ce n'était pas le hasard. Et j'en viens donc à mon troisième objectif, qui est lié à cette minorité. J'ai essayé de montrer, en tout cas, que d'un point de vue philosophique, Bonaventure n'est pas du tout une malaventure pour François d'Assise. Alors je fais allusion au livre de Jacques Dallarin, La malaventure de François d'Assise, que beaucoup parmi vous connaissent, je pense. Et puis, je fais allusion également à sa reprise par André Rocher, justement, dans son François d'Assise. Il est assez fréquent d'entendre et de lire que Bonaventure a déformé, sinon trahi, son père François, comme il dit. Cette thèse n'est pas nouvelle, c'est celle des spirituels. Et on en veut pour preuve que Bonaventure a écrit au sujet du Poverello, on me l'a encore dit d'ailleurs lors de ma soutenance, donc c'est une thèse tenace. Bonaventure a écrit au sujet du Poverello qu'il était plus admirable qu'imitable. Donc on dit, ben voilà, on voit bien qu'il y a chez Bonaventure une volonté de mettre François à distance. C'est une manière polie de prendre ses distances avec François. Bon. Et avec son mode de vie en particulier. Alors je m'inscris en faux contre cette thèse d'un Bonaventure malaventure. Quand j'ai commencé à lire Bonaventure, je n'avais aucune idée de ces questions. Je n'avais absolument pas conscience de ce que je viens de vous dire. Mais au terme de 5 années de recherche, je trouve ce jugement profondément injuste, je vous le dis. Alors, je vais développer simplement 3 arguments qui me semblent importants, avant d'en venir à la théologie symbolique. Mon premier argument, c'est tout simplement le déploiement de la logique de la minorité dans la pensée de Bonaventure. C'est-à-dire qu'il me semble que le docteur Séraphique n'est pas un théologien en habit franciscain, c'est quelqu'un qui pense en frère mineur. Et c'est quelque chose de tout à fait manifeste. À tel point que c'est lui qui a inventé le concept de minorité, en écrivant la Legenda Maior. Et même son analyse de la vie trinitaire est marquée par l'idée de minorité. La façon dont il décrit la relation du Fils avec le Père est marquée par l'idée de minorité. Deuxième argument, quand Bonaventure dit que François est plus admirable qu'imitable, il ne dit pas qu'il n'est pas imitable du tout. C'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Il dit qu'il n'est pas imitable en tout, ce qui est différent. Par exemple, tout le monde ne peut pas jeûner combien, 265 jours par an, je ne sais plus exactement, et François n'a jamais prétendu imposer une telle pratique aux frères mineurs d'ailleurs. Donc c'est la personnalité de François en tant que telle qui est plus admirable qu'imitable pour Bonaventure. Je crois que c'est incontestable. En revanche, Bonaventure écrit la chose suivante dans la Legenda Maior. Il dit « Si quelqu'un prétend que le vœu d'observer la perfection évangélique est chose nouvelle, déraisonnable et impossible, n'est-il pas convaincu de blasphémer contre le Christ, auteur de l'évangile ?» Ce qui manifeste bien que pour lui, la perfection évangélique est quelque chose de possible. Celui qui dirait qu'elle n'est pas, qu'on ne peut pas la mettre en pratique, pourrait être accusé de blasphème. Donc c'est une déclaration très claire. En disant que François n'est pas complètement imitable, totalement imitable, Bonaventure ne renonce pas à la perfection évangélique. Il ne cherche en rien à atténuer la radicalité du mode de vie franciscain, par exemple. À mon avis, c'est un contresens. Donc observer la perfection évangélique est chose possible aux yeux de Bonaventure, et c'est le devoir du frère mineur. Et cette précision est très importante, c'est que Bonaventure réfère toujours l'identité franciscaine, non pas à François, mais au Christ par François. Je prends un exemple. Dans l'un de ses sermons sur François, Bonaventure écrit « Être doux et humble de cœur, c'est être frère mineur ». tout le monde sait qui a dit « Je suis doux et humble de cœur », c'est le Christ. C'est Jésus qui dit ça de lui-même. Et Bonaventure, pour définir, pour décrire précisément l'identité du frère mineur, dit « Le frère mineur, c'est celui qui est doux et humble de cœur ». Donc il réfère l'identité franciscaine au Christ lui-même, plutôt qu'à la personnalité de François. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça tout de même? Cet ordre a été fondé par François. Mais je pense que cela nous prémunit de toute idolâtrie ou culte de la personnalité à l'égard de François. Et on sait que Bonaventure a eu fort à faire avec certains de ses contemporains par rapport à cette question. Donc ça, c'était le deuxième argument. Le troisième argument, maintenant, c'est qu'il ne faut pas oublier combien Bonaventure a défendu l'idéal de la pauvreté, en disant justement que ça n'était pas un idéal et que c'était quelque chose qu'on pouvait vivre. Il a défendu le mode de vie des frères mineurs contre les ennemis de la pauvreté. Et s'il n'avait pas fait ce travail, alors je pense à l'Apologia Pauperum, hein, l'apologie des pauvres, je pense aussi aux questions disputées sur la perfection évangélique où il fait un autre éloge de la pauvreté. S'il n'avait pas fait ce travail, il n'est même pas sûr que l'ordre aurait perduré. Après tout, on n'en sait rien. Parce que peut-être que ce mode de vie aurait été condamné. Et de même, pour les deux légendes, pour les deux vies de François qu'on lui a tant reprochées, il faut prendre en considération le fait qu'elles ont permis, tout de même, de consolider l'unité de l'ordre à une époque où la division était quand même... prépondérante. Donc il me semble que ce sont des points qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà les raisons pour lesquelles je considère que Bonaventure n'est pas une malaventure pour François. Voilà, je pense qu'il y aurait bien d'autres arguments à développer, mais ce sont ceux auxquels j'ai pensé. Alors, je ne serais probablement pas parvenue au terme de ce labeur de thèse si je n'avais pas été invitée par Emmanuel Falk. Oui, j'ai des dettes envers beaucoup de monde, en fait, envers la bibliothèque ici, envers Emmanuel Falk à l'Institut catholique de Paris, parce qu'il m'a invitée à participer activement aux séances du laboratoire de philosophie patristique et médiévale. Ce laboratoire a organisé en janvier 2009 un colloque intitulé « Lire le monde au Moyen-Âge ». Et s'y sont produits d'illustres intervenants comme Olivier Boulnois, Dominique Poirel sur Hugues de Saint-Victor, Christian Trottmann qui nous a parlé d'Isaac de l'Étoile, Jean Leclerc qui a parlé de Saint-Bernard, etc. Et s'y sont également produits quelques intervenants inconnus, la plupart des doctorants, dont j'étais. J'étais de cela et je devais parler de la théologie symbolique de Bonaventure, c'est-à-dire de sa manière de lire le livre du monde. Et c'est à l'issue de cette conférence que Jérôme Alexandre, spécialiste de Tertullien, que certains parmi vous connaissent, je pense, Jérôme Alexandre donc m'a demandé d'écrire un cahier pour la collection qu'il dirige chez Parole et Silence en collaboration avec le Collège des Bernardins. Il lui semblait qu'il y avait une carence à combler dans la collection et en même temps un besoin d'entendre ce que Bonaventure avait à dire sur le monde sensible. Et voilà comment est né ce petit livre. Je passe donc au deuxième temps de mon propos qui porte sur la théologie symbolique elle-même. Donc tout ce petit livre-là, que j'ai écrit l'an dernier, donc, découle d'une phrase de Bonaventure écrite dans le premier chapitre de l'itinérarium, l'itinéraire de l'Esprit vers Dieu. Alors je lis cette phrase. Le Christ nous a enseigné la science de la vérité selon les trois modes de la théologie, à savoir la théologie symbolique, la théologie au sens propre et la théologie mystique, afin que par la théologie symbolique, nous usions droitement des choses sensibles, que par la théologie spéculative, nous usions droitement des intelligibles, et que par la théologie mystique, nous soyons ravis dans les transports de l'esprit. Donc Bonaventure, au début de l'itinérarium, distingue trois formes de théologie ou trois modes de la théologie. La théologie symbolique, la théologie spéculative ou théologie au sens propre, et puis la théologie mystique. Et alors, cette phrase, on ne s'en rend pas compte quand on l'entend comme ça pour la première fois, mais cette phrase est une révolution. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, l'expression théologie symbolique était attachée au nom de Denis l'Aréopagite, qui fait allusion à deux ou trois reprises dans ses ouvrages à un livre qu'il aurait écrit et intitulé « La théologie symbolique ». Donc Denis distille comme ça quelques petites allusions à sa théologie symbolique. Il dit « Dans la théologie symbolique, j'ai parlé de ceci, de cela ». Or, que fait Bonaventure ? Il attribue la paternité de la théologie symbolique non pas à Denis l'Aréopagite, mais au Christ, tout comme les deux autres formes de la théologie d'ailleurs. Il attribue la théologie symbolique au Christ. Ce déplacement, à mon avis, est fondamental. Et il confère à cette discipline, qui était une discipline fantôme, hein, parce que, encore une fois, en fait, on ne sait pas vraiment si Denis a écrit ce livre. Olivier Boulnois, par exemple, est convaincu du fait qu'il n'a pas écrit ce livre. Moi-même, je ne sais pas quoi en penser, mais en tout cas, la théologie symbolique était une discipline fantôme. Et le déplacement opéré par Bonaventure a beaucoup d'importance parce que, à ce moment-là, la théologie symbolique devient une discipline théologique à part entière et elle devient la discipline théologique qui a pour but l'usage droit des choses sensibles et non pas l'usage droit des concepts et des discours pour parler de Dieu, comme c'est habituel en théologie. Le monde sensible lui-même, avec ses plus humbles créatures, devient une matière théologique à part entière. Et c'est ça, me semble-t-il, la grande nouveauté de ce petit texte. Bonaventure, évidemment, a eu des prédécesseurs dans cette voie. Isaac de l'Étoile, de Saint-Victor, ont parlé du livre de la nature. Ce n'est pas une nouveauté, le livre de la nature ou le Liber Mundi. Mais Bonaventure est le premier théologien à avoir considéré le monde, dans sa concrétude, hein, c'est vraiment quelque chose de concret, comme une révélation permanente de la vie trinitaire. À l'image d'ailleurs de ce résumé du monde sensible qu'est la personne du Christ à ses yeux. Donc mon livre part de cette prise de distance de Bonaventure à l'égard du pseudo-Denis, et il se présente ensuite sous la forme de trois chapitres. C'est un petit livre, donc il n'y a que trois chapitres. Ça va assez vite. Le premier chapitre est intitulé « Une théologie pratique et concrète ». C'est un chapitre où il est question de la notion d'usage, puisque Bonaventure définit la théologie symbolique comme l'usage droit des choses sensibles. Donc la notion d'usage est centrale, et c'est pourquoi j'ai consacré les premiers chapitres du livre à la notion d'usage. Qu'est-ce que signifie l'usage chez Bonaventure ? Parce qu'il faut bien voir qu'il est assez singulier de dire que la théologie symbolique consiste en un usage. Habituellement, la théologie symbolique ne consiste pas, la théologie tout court d'ailleurs, ne consiste pas en un usage. Ce sont des discours, ce sont des contenus de connaissances, hein, qu'on se communique, qu'on se transmet, qu'on élabore. Mais ici, il s'agit d'user de quelque chose, de faire quelque chose. Donc c'est un déplacement, un autre déplacement très important par rapport à ce que sous-entendait Denis, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Christ nous enseigne le bon usage des choses sensibles ? J'ai réfléchi sur cette notion d'usage en m'appuyant sur la définition augustinienne de l'usage qui avait cours à l'époque de Bonaventure. Et d'ailleurs, Bonaventure lui-même en parle au début de son commentaire des sentences, la distinction entre l'outil et le fruit, entre l'usage et la jouissance qu'on tire de l'usage. Donc je me suis appuyée sur la définition augustinienne de l'usage et sur la définition aristotélicienne qui nous a été transmise par Boès de l'usage. Et cette définition est légèrement différente. Il ne s'agit pas de l'acte de la volonté. Pour Augustin, l'usage, c'est un acte de la volonté. Pour Aristote, l'usage est une opération naturelle, l'opération naturelle de chaque chose. Et c'est la définition que retient Bonaventure. Contre toute attente, lui qu'on dit habituellement augustinien,